RFI, il est 8h à Kinshasa, 7h en temps universel. Un nouveau journal avec Clotilde Dumay et à la une Clotilde, la République démocratique du Congo.
Où 37 personnes ont été condamnées à mort à l'issue du procès concernant les événements du 19 mai dernier. On va y revenir dans un instant. Dans l'actualité également, la campagne électorale américaine à moins de 2 mois de la présidentielle. Et chaque candidat s'appuie sur ses thèmes de prédilection. Donald Trump sur l'immigration, Kamala Harris sur le droit à l'avortement. Et puis Paris qui peine à se séparer de l'esprit olympique. Alors la capitale française s'offre une dernière fête avec les athlètes sur les Champs-Élysées, une sorte de remake de la Coupe du Monde 98.
Le tribunal militaire de Kinshasa a condamné à mort 37 des 51 accusés dans l'affaire des événements du 19 mai.
Ils ont été condamnés pour association de malfaiteurs et attentats, mais aussi terrorisme et détention illégale d'armes, reconnus coupables d'avoir participé à ce que les autorités ont qualifié de coup d'État manqué. Le 19 mai dernier, un commando armé avait visé la résidence de l'homme politique Vital Kamerhe avant de se rendre au palais de la Nation. Dans cette affaire, 14 personnes ont aussi été acquittées. À Kinshasa, la correspondance de Pascal Moulégois.
À l'annonce du verdict, les 14 acquittés débordent de joie. Ils sont pour la plupart employés au propriétaire de l'auberge qui louait Christian Malanga. Pour les 37 autres, les juges militaires sont restés intransigeants. Conseiller à l'Agence nationale du renseignement, l'expert belgo-congolais Jean-Jacques Wondo a été présenté comme le concepteur et auteur intellectuel de ce qui a été présenté comme une tentative de coup d'État. Sa sœur Berthe Wallo.
Nous sommes déçus pour Jean-Jacques Wondo parce que dans ce dossier, il n'y avait absolument rien. Et pourtant, il est condamné à mort pour un crime dont il ne sait rien ni de près ni de loin.
Plusieurs prévenus ont affirmé avoir été contraints de participer aux attaques, un argument rejeté par le tribunal. Le juge a relevé que ces prévenus n'avaient pas cherché à se retirer lorsque Christian Malanga avait été éloigné et qu'ils avaient été vus armés ou encore scandant des slogans contre le pouvoir. Les avocats de la défense comme Richard Bondo dénoncent ces mauvais jugements et prévoient d'interjeter appel.
C'est un jugement annulable au degré d'appel et nous allons former appel d'ici 5 jours pour que la cour militaire examine de nouveau et réforme le jugement de condamnation. Nos clients sont condamnés à une peine abolie depuis 2006. La Constitution de la République a aboli toutes les dispositions législatives contraires à elle.
Les prévenus sont condamnés à verser jusqu'à 50 millions de dollars de dommages et intérêts à l'État congolais. Pascal Moulégua, Kinshasa, RFI.
La campagne présidentielle s'intensifie et se durcit même aux États-Unis.
À moins de 2 mois du scrutin, les deux candidats enchaînent les meetings et Donald Trump multiplie ses attaques contre les migrants. Le candidat républicain promet d'organiser des expulsions massives à Springfield, dans cette ville de l'Ohio, visée par de fausses informations selon lesquelles des Haïtiens voleraient des chats et des chiens pour les manger. Le président Joe Biden a demandé à Donald Trump de cesser ses attaques. Pas de réaction directe, en revanche, pour l'instant, de Kamala Harris en Pennsylvanie. La candidate démocrate a, elle, préféré se concentrer sur un autre sujet qu'elle défend régulièrement, le droit à l'avortement.
Ours is a fight.
Notre combat est un combat pour la liberté, comme la liberté fondamentale d'une femme de faire des choix sur son propre corps sans avoir le gouvernement qui lui dise quoi faire. Et ce que nous avons vu, c'est qu'État après État, on a passé des lois pour criminaliser les soignants et pour punir les femmes. Désormais, plus de 20 États ont des interdictions d'avortement signées Trump. Beaucoup, sans exception, pour le viol et l'inceste, ce qui est immoral. Dire à une survivante d'une violation de son corps qu'elle n'a pas le droit de prendre une décision sur ce qui va arriver ensuite à son corps, c'est immoral. Et mettons les choses au clair. Personne n'a à abandonner sa foi ou ses convictions profondes pour être d'accord sur le fait que le gouvernement n'a pas à lui dire quoi faire.
Et justement pour cette défense de l'avortement, le pape François renvoie Kamala Harris dos à dos avec Donald Trump et son discours anti-migrant. Ils sont tous deux contre la vie, selon lui.
Le pape François qui assure par ailleurs que le Vatican avait connaissance des accusations de violence sexuelle visant l'abbé Pierre, et ce au moins depuis sa mort en 2007.
Oui, après de premières accusations révélées en juillet, le fondateur d'Emmaüs est visé par 17 nouveaux témoignages. Le pape François a donc évoqué le sujet en rappelant la nécessité de poursuivre le combat contre les abus sexuels. Les précisions du correspondant de RFI au Vatican, Eric Sénanque.
L'abus est à mon avis une chose démoniaque, car tout type d'abus détruit la dignité de la personne, a lancé le pape, qui s'est publiquement exprimé pour la première fois sur le fondateur d'Emmaüs.
Vous avez parlé de l'abbé Pierre. Malgré tout le bien qu'il a pu faire, vous pouvez aussi voir que cette personne est un terrible pécheur. C'est notre condition humaine.
François a expliqué aussi qu'il n'y avait pas de tabou concernant les agressions sexuelles. Nous devons parler clairement de ces choses et non les cacher, a-t-il rappelé, admettant que le Vatican était au courant des agressions concernant l'abbé.
Que savait le Vatican de l'abbé Pierre ? Je ne sais pas quand le Vatican l'a appris. Je ne sais pas parce que je n'étais pas encore pape et ça ne m'est jamais venu à l'esprit d'effectuer une recherche sur ce cas. Le Vatican savait après sa mort, c'est sûr, mais avant, je ne sais pas.
Si les archives vaticanes restent muettes, celles de l'Église de France s'ouvrent sur les méfaits de l'abbé Pierre. On y apprend que dès la fin des années 50, le secrétaire de l'épiscopat français, Mgr Jean Villot, connaissait les agressions. Celui-ci deviendra en 1969 le secrétaire d'État du pape Paul VI. Éric Sélanc, Rome, RFI.
Plusieurs rassemblements sont prévus en France aujourd'hui en soutien à Gisèle Pellicot et aux victimes de violences sexuelles. Cette femme de 71 ans a accepté que le procès de son ex-mari se déroule sans huis clos. Dominique Pellicot est accusée de l'avoir droguée et d'avoir recruté des dizaines d'hommes pour la violer pendant près de 10 ans. Le procès a débuté mais il a été suspendu jusqu'à lundi en attendant le retour justement de Dominique Pellicot, absent pour des raisons de santé.
Et toujours en France, le nouveau Premier ministre pourrait profiter du week-end pour affiner la composition de son futur gouvernement.
Michel Barnier a promis de le présenter la semaine prochaine alors que les dossiers s'accumulent déjà sur son bureau. Le projet de budget pour 2025 n'est toujours pas présenté au Parlement et l'opposition attaque sur un autre front, la réforme des retraites. Le Rassemblement national a déposé une proposition de loi pour l'abroger. C'était aussi dans le programme du nouveau Front populaire, mais la gauche ne sait pas encore quelle position adopter. Reportage à la Fête de l'Humanité près de Paris d'Aurélien Devernois.
Voter oui au nom de l'intérêt général ou non en raison de l'opportunisme politique du RN sur le sujet. Dans les rangs du nouveau Front populaire, c'est l'embarras. Au Parti communiste, Fabien Roussel préfère temporiser.
Quand on dit que nous voulons tout faire pour que cette réforme des retraites soit abrogée, il faut être cohérent. Et donc maintenant, est-ce que la proposition de loi du Rassemblement national arrivera jusqu'à sa niche ? On verra, mais on n'en est pas là.
La patronne des écologistes, Marine Tondelier, botte elle aussi en touche.
Très bon pas là-dessus.
Avant de dénoncer une manœuvre du Rassemblement national.
Le RN, s'ils avaient voulu combattre les retraites, ils pouvaient le faire dans la rue, dans l'hémicycle, dans la campagne législative. On n'a rien compris leur affaire. Voilà, donc ils font leur petit coup de com'. Tant mieux pour eux.
Ajouter les voix du NFP et du RN permettrait en effet d'abroger la réforme passée en force l'an dernier. Mais la fin justifie-t-elle les moyens ? Sympathisant de gauche, Julien, 22 ans, en doute.
C'est vrai que moi je m'en fous pas. Je préfère quand même voir ce qui se passe à gauche.
Mais pas sûr que le discours soit le même chez les électeurs du NFP proches de la retraite. Les différents groupes parlementaires de l'Alliance tentent donc de trouver la parade en évitant par exemple que le texte aille jusqu'au vote dans l'hémicycle, voire en comptant sur l'aide du camp présidentiel qui avait fait échouer une proposition identique du groupe indépendant Liot en juin dernier.
Le reportage d'Aurélien Devernois. Après 3 jours de deuil national, le Pérou enterre Alberto Fujimori. Funérailles nationales pour l'ancien chef d'État décédé à l'âge de 86 ans. Des milliers de sympathisants ont défilé devant son cercueil depuis jeudi. Même si la présidence d'Alberto Fujimori entre 90 et 2000 a largement divisé le pays.
Les États-Unis donnent un nouveau tour de vis aux importations chinoises.
Après avoir augmenté de 100% la taxe sur les voitures électriques, Washington s'attaque maintenant aux produits de petite valeur. Actuellement, les importations de $800 ou moins sont exemptées de droits de douane aux États-Unis. Et selon la Maison-Blanche, les entreprises chinoises abusent de cette faille commerciale, Gali Bonin, pour inonder le marché américain.
Dans le viseur de l'administration Biden, il y a principalement 2 compagnies, Shein et Temu. Les 2 géants chinois du e-commerce sont montés en puissance ces dernières années et ont largement profité de la réglementation américaine. Leurs produits sont envoyés depuis la Chine directement chez les consommateurs. Déclarés séparément, ces importations sont considérées des minimis, c'est-à-dire qu'ils ont une valeur trop petite pour être taxés. Cette pratique a explosé aux États-Unis en 10 ans. Le nombre de colis concernés est passé de 100 140 millions à plus d'un milliard. La Maison-Blanche dénonce une stratégie commerciale qui nuit aux consommateurs et aux entreprises américaines. Pour y mettre fin, l'administration Biden propose de revoir la liste des produits exemptés de frais de douane. Cette nouvelle règle devrait permettre de taxer la majorité des vêtements et tissus venus de Chine, principaux articles vendus par Shein et Temu. Cette annonce survient en pleine campagne électorale, deux jours après qu'une centaine d'élus démocrates aient interpellé le président à ce sujet.
Les explications de Gali Bonin.
Il est 9h10 à Paris et cette fois, promis, c'est la dernière célébration des Jeux Olympiques et Paralympiques en France.
Et oui, presque une semaine après la fin de la compétition, une parade des champions est prévue cet après-midi sur les Champs-Élysées à Paris. Un dernier tour de piste donc pour rendre hommage aux sportifs français et à tous ceux qui ont participé à l'organisation de ces Jeux. 70 000 spectateurs sont attendus sur place pour profiter ensuite d'un grand concert en partie imaginé par le directeur de la musique de ces JO. J'ai nommé Victor Lemann, auteur aussi d'une sorte de tube de l'été. Il s'intitule d'ailleurs ce tube Parade. Et on pourrait encore l'entendre ce soir. On peut déjà même désormais le passer en boucle sur les plateformes de streaming. C'est vraiment Edmond Sadaka, la musique qui a marqué les Jeux.
Au départ, Parade avait été conçue pour accompagner la cérémonie d'ouverture des JO et le défilé des athlètes sur la scène. Mais face à l'engouement qu'il a suscité, le morceau s'est vite imposé comme l'hymne officiel de l'événement. On a pu l'entendre notamment au passage de Relais de la Flamme et à l'occasion des remises des médailles. Un succès auquel ne s'attendait visiblement pas le compositeur de ce morceau, Victor Lemann.
Je ne l'ai pas composé en me disant que ça allait être un thème, encore moins un hymne. Je l'ai composé au départ de manière très spontanée. C'était vraiment parmi les premières briques que j'ai posées pour cet grand édifice. Quand les gens se sont emparés du morceau, ça s'est enflammé, si je puis dire. C'était une grande surprise.
Parade démarre par un air léger avec violon, puis il monte en puissance avec orchestre symphonique et chœur, avant de se transformer en boucle électro. Et pour la petite histoire, l'hymne est devenu tellement populaire qu'un collège de la banlieue lyonnaise l'a adopté pour remplacer sa sonnerie de fin de cours, et ceci pour faire perdurer l'esprit des Jeux de Paris.
Voilà, Parade, le thème composé par Victor Lemann qui est désormais donc disponible sur toutes les plateformes de streaming. On l'écoutera d'ailleurs peut-être chaque année, qui sait, à l'occasion de la future fête, non pas de la musique, mais du sport. Une future fête qui pourrait être organisée tous les ans le 14 septembre, justement. C'est en tout cas une idée du président Emmanuel Macron.
Et on va reparler de cette parade des champions sur RFI. Rendez-vous vers 12h15 en temps universel avec Joris Baudet, le français médaillé d'or en BMX. Merci Clotilde Dumais. Il est 9h12 à Paris. RFI Matin, dernière heure. Dans un instant, le portrait de Bart De Wever. Il est notre Européen de la semaine et il pourrait bien devenir le prochain chef du gouvernement en Belgique. Et puis à suivre aussi l'actualité des jeux vidéo. Ce sera la chronique Bienvenue dans le Game avec Jennifer Lufaux. Mais d'abord, la rue de presse. Et rebonjour Catherine Potet.
Rebonjour Gaëtan.
À la une de cette revue de presse, le deuxième anniversaire de la mort de Mahsa Amini.
Mahsa Amini, jeune iranienne de 22 ans, assassinée par la police des mœurs, rappelle Libération, qui fait sa une avec les photos en gros plan du cinéaste Mohammad Razoulov et de l'actrice Golshifteh Farahani, deux exilés qui poursuivent la lutte depuis l'étranger. La première année qui a suivi la mort de Mahsa Amini, ajoute le quotidien français, a été celle du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Une insurrection et un espoir monstre se sont emparés du pays. Mais nous avons aussi été les témoins impuissants de la répression d'un État déployant son arsenal de terreur pour étouffer l'opposition et renvoyer les assoiffés de liberté se cloîtrer. Toutefois, l'heure n'est pas pour autant au pessimisme. Pour Mohammad Razoulov, le mouvement Femmes, Vie, Liberté a insufflé un courage, une audace au peuple iranien. De son côté, Golshifteh Farahani croit en la jeunesse. Elle a une force incroyable, dit-elle. Elle est comme une graine qui est plantée, même si c'est dans un environnement sale et hostile, elle va grandir. Car c'est dans sa nature de pousser. Ce n'est pas un espoir, c'est un fait. On sait que ça va arriver. À Téhéran, Libération a rencontré Mariam, jeune femme de 28 ans, fabricante de clés, qui travaille toujours en t-shirt, sans se couvrir les cheveux. C'est comme si une révolution avait eu lieu lieu, explique-t-elle. Avant la mort de Mahsa Amini, nous n'avions jamais imaginé que nous pourrions obtenir la moindre petite liberté avant des années et des années.
À la une également, Catherine, la condamnation à mort de 37 accusés en République démocratique du Congo.
Des condamnés jugés pour tentative de coup d'État et parmi lesquels se trouvent 3 Américains et un Britannique, ce qui a aiguisé la curiosité du Guardian. Le quotidien britannique raconte que 6 personnes ont été tuées lors de la tentative de coup d'État ratée menée par l'opposant Christian Malanga le 19 mai dernier. Parmi les 3 Américains condamnés que l'on voit en tenue bleue et jaune en train d'attendre le verdict, figure Marcel Malanga, le fils de Christian Malanga, ainsi que Tyler Thompson Jr., un jeune Américain de 21 ans qui, nous dit le Guardian, s'était envolé depuis l'Utah avec Marcel pour ce que sa famille croyait être des vacances tout frais payées. Lors du procès, Marcel Malanga avait lui assuré que c'était la première fois qu'il se rendait en RDC à l'invitation de son père qu'il n'avait pas vu depuis des années. Les 2 jeunes Américains, ajoute le quotidien, jouaient ensemble au football au lycée de Salt Lake City. Mais selon certains de ses coéquipiers, ils ne parlaient pas que football. Ils accusent en effet Marcel Malanga d'avoir offert jusqu'à 100 000 $ pour l'accompagner dans un travail de sécurité en RDC. Quant aux Britanniques condamnés à mort, il s'agirait d'un Congolais naturalisé, selon le Guardian, qui avoue n'en savoir guère plus. Tous les condamnés peuvent désormais faire appel.
Et enfin, le Corriere della Sera était avec le pape François dans l'avion qui le ramenait de sa tournée en Asie.
Le journal italien a tout d'abord voulu savoir si le pape était plutôt favorable à Donald Trump ou Kamala Harris dans la course à la Maison Blanche. Tous les 2 sont contre la vie, a répondu François. L'un rejette les migrants, l'autre tue les enfants. Allusion au droit à l'avortement défendu par Kamala Harris. Le Corriere della Sera a aussi interrogé François sur la guerre à Gaza. Qu'avez-vous envie de dire aux belligérants, demande-t-il au pape. J'appelle chaque jour la paroisse de Gaza. Il y a là-bas 600 personnes, des chrétiens, des musulmans. Ils vivent comme des frères, répond François qui ajoute. Quand vous voyez les corps d'enfants tués, quand une école est bombardée parce qu'elle abriterait des terroristes, c'est vraiment terrible. Serez-vous à Paris pour l'inauguration de Notre-Dame en décembre, demande enfin le Corriere della Sera. La réponse est claire, mais négative. C'est non.
Merci à vous, Catherine Potet. C'était la revue de presse sur RFI, 9h17 à Paris. Il est pressenti pour devenir le prochain chef du gouvernement en Belgique. Bart De Wever est notre Européen de la semaine. Bonjour Julien Chavannes.
Bonjour.
Plus de 3 mois après les élections législatives, le président de la NVA, les conservateurs flamands, est devenu un personnage central dans la vie politique belge.
Oui, le roi l'a nommé formateur du futur gouvernement. Une équipe qui tarde à se mettre en place. Bart De Wever et son parti ont remporté les élections de juin. Il prétend donc au poste de Premier ministre. Écoutez ce qu'il disait en juillet dernier.
Avant les élections, j'ai clairement dit que je suis candidat pour le 16, je l'ai dit pendant la campagne électorale, et maintenant j'essaye de réaliser cette ambition.
Alors il a déjà essayé une première fois de trouver un accord avec 4 autres partis avant de jeter l'éponge, et bien le voilà reparti pour un tour. Alors pourquoi ça bloque? Écoutez les explications de Dave Sinardé, il est professeur de sciences politiques à Bruxelles.
La situation est bien sûr très difficile, il y a un grand trou budgétaire et il y a quand même 5 partis autour de la table, allant d'un parti social-démocrate flamand à un parti de droite libéral francophone. Donc ce n'est pas vraiment évident de réconcilier les différents points de vue.
Et ça pourrait encore durer, hein. Des élections communales sont prévues en octobre. Plusieurs chefs de parti sont déjà en campagne, donc Bart De Wever à Anvers. Personne ne voudra lâcher du lest d'ici là.
Alors vous le disiez, Julien, Bart De Wever est maire de la ville d'Anvers. Quel a été son parcours?
Il est tombé dans le bain politique très tôt. Son grand-père a été secrétaire de la Ligue nationale flamande, un parti flamand d'extrême droite de l'entre-deux-guerres. Son père militait pour l'autonomie de la région flamande. En 2010, Bart De Wever prend la tête du NVA. Il remporte toutes les élections depuis. Aujourd'hui, c'est devenu un personnage incontournable de la vie politique belge. Alexandre Nop est journaliste politique au journal belge Le Soir.
C'est la personnalité peut-être numéro 1 depuis les années 2010. Il est au centre des négociations depuis longtemps. Tout le monde le connaît, donc prêt à devenir le premier ministre de la Belgique. C'est quelque chose de complètement inenvisageable. Il y a plusieurs années, ça a évolué. Bart De Wever à évoluer vers un profil de politicien plus à droite, certes, mais aussi plus ouvert peut-être à travailler en collaboration avec les francophones.
Son parcours politique est marqué par sa proximité avec les mouvements d'extrême droite et par un discours indépendantiste, même si ces derniers temps, il a adouci son programme, comme le note le politologue flamand Dave Sinardet.
Au début, c'était vraiment un parti nationaliste flamand assez radical et ils sont graduellement évolués plus vers un parti de droite, libéral, conservateur, qui est aussi ouvert finalement à gouverner la Belgique et qui n'est plus seulement focalisé sur l'autonomie flamande.
Et quel homme est-il en privé ? À 53 ans, il est père de 4 enfants, sa femme est enseignante. On lui connaît une grande passion, l'Empire romain. Il ne manque jamais une occasion de citer Cicéron ou bien Jules César. Et il adore se déguiser. On l'a vu par exemple en costume de panda, de lion, de Saint-Nicolas ou encore bien sûr en empereur romain.
Et s'il devient chef de gouvernement dans quelques mois, à quoi ressemblera sa gouvernance ?
Il faut regarder ce qu'il a fait dans sa ville d'Anvers qu'il dirige depuis bientôt 12 ans. C'est un homme en fait pragmatique et très clanique. Le journaliste Alexandre Nop a enquêté sur ses réseaux et sa méthode pour Le Soir.
Il fonctionne avec un cercle très restreint au niveau du parti, donc au niveau national ou au niveau de la ville d'Anvers. Il a un cercle proche, très politique, principalement masculin, principalement de sa génération, donc entre 45 et 60 ans. Et dans sa méthode, alors vraiment de travail, il va fonctionner de manière académique. Thèse, antithèse, synthèse. Et quand une synthèse est faite sur un thème d'actualité politique, la NVA ne parle plus que d'une seule voix. Et ça, c'est ce qui en fait une de ses forces, c'est que les tensions internes n'apparaissent pas dans le discours externe, vers les médias, vers le citoyen.
Et les Belges, dans tout ça, Julien, comment ils vivent cette attente ?
Eh bien, ils ont l'habitude, hein, pas comme en France. Pour mes interlocuteurs, il est encore un peu tôt pour s'alarmer. Passé Noël, là, ça deviendrait inquiétant. Rappelons que la Belgique détient un record avec 540 jours sans gouvernement. C'était en 2010.
Ah, merci Julien Chavanne pour l'Européen de la semaine. L'actualité des jeux vidéo avec vous, Jennifer Lufaux, bonjour.
Bonjour et bienvenue dans le game.
Eh bien oui, bienvenue. Plusieurs jeux attendus sur cette fin d'année qui font parler d'eux. Et pas toujours pour les bonnes raisons. Aujourd'hui, Jennifer, vous nous racontez l'actualité de ces jeux vidéo en commençant par Black Myth Wukong.
Et oui, je voulais absolument revenir sur ce sujet, car Black Myth Wukong était très attendu par les joueurs et les joueuses. Il s'agit d'un jeu d'action dans l'univers de la mythologie chinoise. Et c'est aussi l'un des tout premiers AAA, donc blockbuster du jeu vidéo, à s'exporter à l'international. Alors, après avoir dévoilé le jeu en août dernier, les développeurs ont donné des consignes de censure qui ont déclenché une polémique en ligne. Les critiques qui ont reçu le jeu ont également eu comme instruction de ne pas mentionner de sujets négatifs comme le Covid-19 ou encore le féminisme. Il y a eu évidemment une vague d'indignation de la part des créateurs de contenu qui ont estimé avoir été censurés par le développeur chinois. De l'autre côté, vous avez aussi des joueurs plus réactionnaires qui sont généralement contre la diversité dans le jeu vidéo et qui soutiennent ces consignes en argumentant qu'il faut éradiquer le féminisme et de manière générale la politique des jeux vidéo. L'affaire reste à suivre, mais en attendant, Black Myth Wukong reste un succès commercial qui a déjà fait plus de 18 millions de ventes dans le monde. Je voulais également vous donner des nouvelles de la licence que j'attends le plus cette année. Assassin's Creed Shadows continue de faire parler, mais je crois avec un peu plus de positivité. Ubisoft, l'éditeur du jeu, a récemment dévoilé de nouvelles images où on a découvert les mécaniques de gestion des personnages, donc de Yasuke, le samouraï noir qui fait polémique, qui est lui un peu le bourrin du jeu. Alors lui, il fonce dans les portes et il tranche des gorges, tandis que Naoe, l'héroïne ninja, est plus furtive et assassine discrètement ses ennemis tout en parcourant les toits japonais. Dans le jeu, vous serez obligé d'alterner les personnages pour avancer afin de tirer parti de leurs forces et de leurs faiblesses. Dommage donc pour ceux qui ne supportent pas de devoir jouer un samouraï noir ou alors une femme, car ils n'y échapperont pas cette fois-ci. Assassin's Creed Shadows arrive sur toutes les plateformes le 12 novembre prochain.
Autre jeu dont vous vouliez absolument nous parler, Jennifer, Life is Strange Double Exposure.
C'est le jeu qui a chatouillé le cœur de millions de fans. Life is Strange racontait l'histoire de Max, une adolescente qui pouvait utiliser ses pouvoirs pour remonter le temps et empêcher des catastrophes avec plus ou moins de succès. Mais c'est surtout une histoire de relations amicales et familiales très très touchantes. Le développement du jeu sera repris pour ce nouvel opus par Dontnod et fait beaucoup jaser car on y retrouvera une Max un peu plus âgée à l'université qui aura donc grandi en même temps que ses fans. Mais cette fois-ci, Max va découvrir le corps inerte de sa meilleure amie, tuée par un assassin qu'elle devra identifier.
So why can I still hear her voice, Max?
Mais lorsque dans son enquête, elle va ouvrir un portail vers une dimension parallèle où sa meilleure amie est vivante, tout est à repenser. Le synopsis est intriguant et si les fans sont ravis de jouer cette héroïne, beaucoup craignent d'avoir affaire à du déjà vu. Eh bien, on aura vite le cœur net puisque Life is Strange Double Exposure sort le 29 octobre prochain.
Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci Jennifer Lufaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Molière et ses masques, c'est la dernière création de Simon Falguière. Son nom vous dit peut-être quelque chose. Il s'était fait connaître il y a 2 ans maintenant au Festival d'Avignon avec sa pièce Fleuve, Nid de cendres. Eh bien, cette fois, le metteur en scène opte pour le théâtre de Tréteaux, loin des scènes modernes, pour un effet peut-être plus rudimentaire, dirons-nous, mais qui offre une plus grande proximité aussi avec le public. Muriel Mahalouf.
Un théâtre populaire pour aller vers un public peu familier avec la scène. Ça a été le souhait au départ de Simon Falguière qui a choisi de raconter la vie de Molière dans sa dernière création. Une pièce créée dans son lieu, un moulin et une ancienne filature en Normandie que l'auteur, metteur en scène, rénove avec ses compagnons de route et des planches.
Le désir, il est né d'abord du lieu, du moulin de l'Hydre et d'une volonté ferme de pouvoir retourner en itinérance dans les villages autour d'ici. Et je cherchais un sujet, et je voulais le sujet le plus ouvert possible pour que les gens aient envie de venir voir la pièce. Si on arrive dans un village où il n'y a pas de théâtre, on n'a pas l'habitude d'aller au théâtre. Et du coup, quel sujet plus évident que Molière ? Quand je vais faire des cours dans des collèges ou dans des écoles primaires et que je demande « qu'est-ce que vous connaissez du théâtre ?», les enfants, même s'ils ne connaissent pas, ils connaissent Molière, ils connaissent le nom de Molière. Et du coup, j'ai pris Molière comme un prétexte pour parler aussi de nous, de la troupe, de notre aventure, de l'aventure d'itinérance, de l'aventure d'un théâtre des campagnes, un peu.
Molière, quelle est donc cette colère que je lis dans vos yeux ?
La colère d'être reconnu pour ce que je ne reconnais pas.
Ne retenez pas vos mots, l'art du théâtre m'intéresse.
Molière, le grand auteur, chef de troupe, est joué avec brio par la comédienne Anne Duverneuil. Il voit défiler sa vie avec ses succès, défaites et parfois compromissions, alors que les 5 autres comédiens, tout aussi excellents, alternent les rôles.
Ça ne m'intéressait pas de faire une reconstitution d'époque. Ce qui m'intéressait, c'était d'utiliser la figure de Molière pour nous faire rire, puisque je voulais faire une comédie. Et en même temps, pour nous interroger sur notre temps, à l'endroit même politique, puisqu'il y a des endroits de miroir entre le 17e et nous. Le 17e a été un moment où il y a eu un grand changement climatique, terrible, ce qu'on appelait le mini-âge glaciaire, et qui a commencé au 15e, et le 17e est la pire période, d'où des famines, des épidémies, et la présence de la guerre et de l'autoritarisme qui monte. Et dans tout ça, un être qui écrit des comédies pour essayer de peindre les vices de son temps.
Théâtre de Tréteaux, comme au XVIIe siècle, une scène surélevée en bois, quelques rideaux et le tour est joué. Molière et ses masques prend la route et s'arrête dans les villages de la Normandie tout ce mois de septembre pour faire rire et réfléchir comme dans toute comédie réussie.
Achevez-moi ! Nous sommes bientôt arrivés au bout !
Que se passe-t-il après cela ?
Ta santé est fragile. Tu deviens un grand artisan de comédie, tu mets loin de toi les combats.
Et les pièces, elles restent bonnes.
Exceptionnelles. Un reportage de Muriel Mahalouf. Dans une minute, un journal consacré à l'actualité africaine avec à la une l'Ouganda qui dit adieu à son athlète olympique Rebecca Cheptegei. La marathonienne sera enterrée aujourd'hui, elle qui a succombé à ses blessures il y a quelques jours après avoir été aspergée d'essence et brûlée par son compagnon. Le journal dans une minute.
Les 21 et 22 septembre, le ministère de la Culture vous invite à célébrer la 41e édition des Journées européennes du patrimoine. Découvrez des monuments et sites exceptionnellement ouverts et participez aux animations proposées partout en Europe sur les thèmes du patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions et du patrimoine maritime. Plus d'informations sur journeesdupatrimoine.fr en partenariat avec France Média Monde. Géopolitique. Chantal Leroux.
En Algérie, Abdelmadjid Tebboune vient d'être réélu avec officiellement près de 95% des voix, mais l'abstention a battu des records. Que va-t-il faire de ce second mandat alors que le pays est plus que jamais cadenassé? On en débat avec trois spécialistes du Maghreb, Pierre Vermeren, Kader Abderrahim et Brahim Oumansour.
Géopolitique, Chantal Leroux.
Tout à l'heure, à partir de 18h41.
RFI.